Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission Rideau Rouge. Je voudrais évoquer aujourd'hui une pièce qui a eu un succès, qui a toujours un succès considérable. Elle a été créée le 28 décembre 1897. Cette pièce, c'est Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Alors, depuis, il y a eu pas moins de 8 films qui ont été tournés à partir de cette pièce. 8 films, le dernier en date, c'est avec Gérard Depardieu en 1990. Gérard Depardieu, un film de Jean-Paul Rappeneau avec Anne Brochet notamment et Jacques Weber. Mais il y a eu d'autres Cyrano au cinéma. Il y a eu José Ferrer en 1950. Et si vous avez l'occasion de le revoir, un enregistrement extraordinaire en 1960, avec Daniel Sorano, que certains appelèrent désormais Sorano de Bergerac. Alors, cette pièce, elle est écrite à partir d'une personnalité que personne ne connaissait avant qu'Edmond Rostand la remette à l'honneur, Savinien de Cyrano de Bergerac. Et le succès de cette pièce a fait que on s'est intéressé à ce Cyrano. Et on a ressorti un de ses livres les plus connus, Des États et Empires de la Lune et du Soleil. Alors, Edmond Rostand est né en 1868, il est mort en 1918. Après Cyrano de Bergerac, il écrira une autre pièce à succès, L'Aiglon. Mais revenons à Cyrano. Le premier acte se déroule à l'hôtel de Bourgogne. Cyrano a interdit à un acteur de se produire sur scène et cet acteur se retrouve sur scène et Cyrano l'oblige à partir. Et des gens dans l'assistance s'indignent de cette dictature de Cyrano. Et un vicomte décide de le vexer. Le vicomte s'adressant à Cyrano, vous avez un nez très grand, Cyrano, très. Ha ! Cyrano, c'est tout ? Mais, ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses ensemble, en variant le ton, par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un hanap. Descriptif, c'est un roc, c'est un pic. C'est un cap, que dis-je ? C'est un cap, c'est une péninsule, curieux. De quoi sert cette oblongue capsule ? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux ? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux ? Que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes ? Truculons ça, monsieur ! Lorsque vous pétunez la vapeur du tabac, vous sortez du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée, prévenant. Gardez-vous, votre tête entraînée par ce poids, de tomber en avant sur le sol. Tendre, faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane.
Pédant. L'animal seul, monsieur Caristophane, appelle Hippocampe-Elephanto-Camélos, dû t'avoir sous le front tant de chair sur ton dos.
Cavalier, quoi, l'ami, se croit à la mode pour pendre son chapeau. C'est vraiment très commode, en fatigue. Aucun vent ne peut, né magistral, t'enrhumer tout entier, excepté le mistral. Dramatique. C'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif pour un parfumeur, quelle enseigne. Lyrique, est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf ce monument, quand le visite-t-on?
Respectueux souffrez, monsieur, quand vous salue. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue.
Compagna, regardez, si tu en es nana, c'est que knavé géant ou pas que melona. Militaire pointé contre cavalerie, pratique. Voulez-vous le mettre en loterie?
Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin, parodiant pyrame en un sanglot, vous le voilà donc, ce nez qui des traits de son maître a détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître.
Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous avez un peu de lettres et d'esprit, mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome et deux lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot « sot ». Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une, car je me laissais moi-même avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Vicomte, laissez donc le vicomte. Oh, ces grands airs arrogants, un beau qui n'a même pas de gants et qui sort sans ruban, sans bouffette, sans gants.
Cyrano, moi, c'est moralement que j'ai mes élégances. Je ne m'attifle pas ainsi qu'un freluquet, mais je suis plus soigneux et je suis moins coquet. Je ne sortirai pas avec, par négligence, un affront pas très bien lavé, la conscience jaune encore de sommeil dans le coin de son œil, un honneur chiffonné, des scandales sans deuil, mais je marche, sans rien sur moi qui ne reluise, empanaché d'indépendance et de franchise. Il faut dire que cette tirade d'aîné a été un des chevaux de bataille de tous les comédiens. Et évidemment, cela ne pouvait se terminer que par un duel. À l'époque, c'était à la mode. Et Cyrano se permettra de se battre en duel en faisant des vers. Et tout en ferraillant avec son adversaire, je jette avec grâce mon feutre, je fais lentement l'abandon du grand mâteau qui me calfeutre, et je tire mon espadon, élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche. Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'emploi, je touche. Vous auriez bien dû rester neutre, ou vais-je vous larder d'un don dans le flanc, sous votre main heutre? Au cœur, vous êtes sous votre bleu cordon, les coquilles teintes, dingue-don, ma pointe voltige, une mouche. Décidément, c'est un bedon qu'à la fin de la voix, je touche. Il me manque une rime en neutre, vous rompez, plus blanc qu'amidon, c'est pour me fournir le mot pleutre. Tac! Je pars la pointe, dont vous espériez me faire don, je vous la lisse, je la bouche. Tiens, bien, t'abroches la ridon, à la fin de l'envoi, je touche. Prince demande à Dieu pardon, je carre du pied, j'escarmouche, je coupe, je feinte. Et là donc, son adversaire chancelle, à la fin de l'envoi, je touche. Seulement Cyrano a une faiblesse. A une faiblesse, cette faiblesse, c'est l'amour qu'il éprouve pour sa cousine, Roxane. Et nous en passe et déclarer, il s'imagine que peut-être un jour elle pourra l'aimer, ce membre-là. Roxane est amoureuse d'un jeune homme beau qui s'appelle Christian de Villette, qui n'a pas d'esprit, qui aime bien l'amour et puis qui est amoureux peut-être de Roxane. Et voilà que Roxane vient voir son cousin Cyrano pour lui avouer son amour pour Christian. Le deuxième acte se situe dans une pâtisserie. Une rôtisserie. La rôtisserie de Raguenaud. Raguenaud, c'était quelqu'un de très sympathique qui accueille tous les poètes affamés, tous ceux qui ne sont pas imprimés, mais qui croient à ce qu'ils font. Et on a un tableau de la vie de ces êtres qui espèrent peut-être qu'un jour leurs œuvres soient imprimées. Et puis, il y a les cadets de Gascogne, les soldats, et encore un morceau de bravo pour Cyrano, qui présente ses amis, ses camarades. Ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon, de Casteljaloux. Breteurs et menteurs sans vergogne, ce sont les cadets de Gascogne, par l'emblason, l'embelle bastogne, dans tous plus nobles que des filous, ce sont les cadets de Gascogne, de Garbon, de Casteljaloux. Œil d'aigle, jambes de cigogne, moustache de chat, dents de loup, fendant la canaille qui grogne, œil d'aigle, jambes de cigogne, ils vont, coiffés d'un vieux vigogne dont la plume cache les trous. Œil d'aigle, jambes de cigogne, moustache de chat, dents de loup. Perce-bedaine et casse-trogne sont leurs sobriquets les plus doux de gloire. Leur âme est ivrogne, perce-bedaine et casse-trogne. Dans tous les endroits où l'on cogne, ils se donnent des rendez-vous. Perce-bedaine et casse-trogne sont leurs sobriquets les plus doux. Voici les cadets de Gascogne qui font cocu tous les jaloux. Ô femme! Adorable carogne, voici les cadets de Gascogne que le vieil époux se renfrogne. Son éclairant, chantez coucou, voici les cadets de Gascogne qui font cocu tous les jaloux. Je vous propose une pause musicale.
Thank you.
Nous sommes toujours à l'acte 2 de Cyrano de Bergerac. Et chez Ragodeau, donc chez le rôtisseur, un ami de Cyrano lui dit qu'il exagère, qu'à force de provoquer le courroux des gens, il finira par avoir de sérieux ennuis. Cyrano, eh bien oui, j'exagère, mais pour le principe et pour l'exemple aussi, je trouve qu'il est bon d'exagérer ainsi. Son ami, si tu laissais un peu ton âme mousquetaire, la fortune et la gloire, et que faudrait-il faire ? Chercher un protecteur puissant, prendre un patron et, comme un lierre obscur qui circonvient un tronc, s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse au lieu de s'élever par force ? Non, merci. Dédier, comme tous ils le font, des vers aux financiers, se changer en bouffons, dans l'espoir vide de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire, enfin, qui ne soit pas sinistre, non, merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui, plus vite à l'endroit des genoux, devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale, non, merci. D'une main, flatter la chèvre au cou, cependant que de l'autre, on arrose le chou. Et donneur de céder par désir de rhubarbe, avoir son encensoir toujours dans quelques barbes, non. Merci. Se pousser de giron en giron, devenir un petit grand homme dans un rond et naviguer avec des madrigaux pour âme et dans ses voiles des soupirs de vieilles dames, non, merci. Chez le bon éditeur de Cercy Férilité, sévère en payant, non, merci. S'aller faire nommer pape par les conciles que dans les cabarets tiennent des imbéciles, non, merci. Travailler à se construire un nom sur un sonnet au lieu d'en faire d'autres, non, merci. Ne découvrir du talent qu'aux mazettes, être terrorisé par de vagues gazettes et se dire sans cesse, oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure François, non. Merci. Calculer, avoir peur, être blême, préférer faire une visite qu'un poème, rédiger, déplacer, se faire présenter, non, merci, non, merci, non, merci. Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre, quand il vous plaît, son feutre de travers, pour un nom se battre ou faire un verre, ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. Et nous arrivons à l'acte 3. Christian de Villette fait la cour à Roxane, mais comme il est incapable de s'exprimer en beau langage et que Roxane est une précieuse indécrottable, c'est Cyrano qui va souffler à Christian tout ce qu'il doit dire. Et finalement, Roxane ouvre sa porte, un capucin entre à la dérobée et va les marier. Mais le comte de Guiche est amoureux également de Roxane. Il vient devant la porte de Roxane et Cyrano, pour que le mariage s'accomplisse, le retient de toute force et lui raconte son voyage dans la lune. Et au bout d'un moment, il s'arrête, le mariage est terminé, Christian et Roxane sortent au bras l'un de l'autre. Furieux, de Guise envoie immédiatement Christian à Arras, au siège d'Arras. Et c'est à l'acte 4 que nous allons retrouver Christian et ses collègues militaires au siège d'Arras. Et puis voilà que sur le champ de bataille arrive Roxane. Elle se précipite sur Christian. Et maintenant, Christian, et maintenant, dis-moi pourquoi, par ces chemins effroyables, pourquoi, à travers tous ces rangs de soudards et de reines, tu m'as rejoint ici, Roxane. C'est à cause des lettres. Tu dis, tant pis pour vous, si je cours ces dangers, ce sont vos lettres qui m'ont grisé. Ah, songez combien depuis un mois vous m'en avez écrites et de plus belles encore. En réalité, évidemment, ce n'est pas Christian qui a écrit les lettres. C'est Cyrano qui a envoyé des lettres d'amour signées Christian à Roxane. Évidemment, Roxane ne s'est rendu compte de rien. Et puis à la fin de l'acte 4, Christian est tué au combat. Roxane est veuve et elle va se retirer dans un couvent. Et à l'acte 5, nous sommes 15 ans après les événements qui viennent d'avoir lieu. Elle est toujours dans ce couvent, vivant dans le souvenir de Christian, sans se douter que Christian, c'était tout simplement Cyrano. Et Cyrano vient la voir régulièrement, tous les jeudis. Et puis un jour, il arrive, elle a été blessée, elle ne sait pas, elle ne sait pas encore qu'il a été blessé dans un combat, et elle lui dit, en prenant un sachet qui est pendu à son cou, « Tenez, Cyrano, je peux ouvrir ? Ouvrez, lisez !» Cyrano lisant. Roxane, adieu, je vais mourir. C'est pour ce soir, je crois, ma bien-aimée. J'ai larmes lourdes encore d'amour inexprimé et je meurs. Jamais plus, jamais mes yeux grisiers, mes regards dont c'était Roxane, comme vous la lisez, sa lettre, dont c'était les frémissantes fêtes ne baiseront au vol les gestes que vous faites. J'en revois un petit qui vous est familier pour toucher votre front et je voudrais crier, Roxane, comme vous la lisez, cette lettre, la nuit vient insensiblement, Cyrano, et je crie à Dieu, Roxane, vous la lisez, ma chérie, mon trésor, Roxane d'une voix, mon amour, Roxane d'une voix, mais que je n'entends pas pour la première fois. Cyrano, mon cœur, ne vous quitta jamais une seconde et je suis et serai jusque dans l'autre monde celui qui vous aima sans mesure, celui, Roxane, comment pouvez-vous lire à présent? Il fait nuit. Et pendant 14 ans, il a joué ce rôle d'être le vieil ami qui vient pour être drôle, Cyrano, Roxane. Roxane, c'était vous. Non, non, Roxane, non! J'aurais dû deviner quand il disait mon nom. Non, ce n'était pas moi, c'était vous. Je vous jure, j'aperçois toute la généreuse imposture. Les lettres, c'était vous. Non. Les mots chers et fous, c'était vous. Non. La voix dans la nuit, c'était vous. Je vous jure que non. Roxane, l'âme, c'était la vôtre. Cyrano, Je ne vous aimais pas, Roxane, vous m'aimiez. Cyrano, c'était l'autre. Vous m'aimiez. Non. Déjà, vous le dites plus bas. Non. Non, mon cher amour, je ne vous aimais pas. Oh. Que deux choses qui sont mortes, qui sont nées. Pourquoi vous être tu pendant 14 années? Puisque sur cette lettre, où lui n'était pour rien, ses pleurs étaient de vous. Ce sang était les siennes. Alors, pourquoi laisser ce sublime silence se briser aujourd'hui? Pourquoi? Et à ce moment-là, des amis interviennent et puis on arrive petit à petit au dénouement. Cyrano sent qu'il va mourir. Il veut mourir debout, il va s'adosser à un arbre. Et debout, l'épée à la main, il attend la mort. Et puis vient le moment de lâcher prise. Ah, Cyrano, je vous reconnais, tous mes vieux amis, le mensonge. Tiens, les compromis, les préjugés, les lâchetés. Ah, te voilà, toi, la sottise, je sais bien qu'à la fin, vous me mettrez à bas, n'importe, je me bats, je me bats, je me bats. Oui, vous m'arrachez tout, le laurier, la rose arrachée, et amagrez-vous quelque chose que j'emporte. Et ce soir, quand j'entrerai chez Dieu, mon salut baissera, balayera largement le seuil bleu. J'emporte malgré vous, c'est Roxane, c'est Cyrano rouvre les yeux, la reconnaît en souriant. Mon panache. Et c'est sur ces deux mots, mon panache, que s'achève Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Je vous remercie de m'avoir écouté. Thank you.